Radio Okapi. Grande interview.
Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé plusieurs fois que sa priorité est de mettre l'homme congolais au centre du développement de la RDC. Dans sa vision, le président de la République veut rétablir le peuple congolais dans sa dignité, en améliorant notamment son social, mais aussi en s'attaquant aux antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. Pour passer de la parole à l'acte, Félix Tshisekedi a déjà mis en place un cabinet de conseiller spécial en charge de la coordination pour les changements des mentalités CCM. Ce service va accompagner le chef de l'État et le gouvernement dans les efforts entrepris dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour en parler, grande interview reçoit dans ce numéro le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour les changements des mentalités, Jacques Kambala Tshilombo. Avec lui, nous parlerons des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise, de la mission de la coordination de changement des mentalités, ainsi que des actions concrètes à entreprendre pour initier la population à la nouvelle citoyenneté. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro Jacques Kambala Tshilombo, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. Monsieur Jacques Kambala Tshilombo, bonjour.
Bonjour, monsieur Michel.
Qui est donc monsieur Jacques Kambala Tshilombo, votre portrait avec Kelly Kouté.
Portrait. Conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités, Jacques Kambala Tshilombo est conférencier et motivateur sur le leadership. Résidant pendant plusieurs années au Canada, Jacques Kalamba Tshilombo a été conseiller financier en investissement et sécurité financière chez Industrielle Alliance et membre de l'autorité des marchés financiers du Canada. Il a été chargé des projets dans plusieurs compagnies de services et exploration des marchés de Montréal avant de devenir représentant et chef d'équipe des services à la clientèle chez FedEx Canada. Avant de quitter la RDC pour le Canada, Jacques Kalamba Tshilombo fut conseiller et assistant administratif du conseiller principal du Premier ministre Étienne Tshisekedi en charge des affaires économiques. Il a été aussi membre du Collège des conseillers en informatique et nouvelles technologies dans le même cabinet. Informaticien, agent administratif et comptable de formation, Jacques Kalamba Tshilombo a commencé son parcours professionnel par être conseiller dans le bureau d'études du gouverneur de la ville de Kinshasa, Feu Kibabu Madiatanzaou. Il a fait ses études secondaires et humanitaires au collège Bobokouli, ex-Champagne, section maths physique.
Portrait.
Alors, monsieur Jacques Kambala, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de la coordination pour le changement des mentalités?
Merci beaucoup, Michel, pour cette invitation et nous sommes grandement honorés de parler à haute voix à toute cette audience qui est assoiffée de savoir en fait qu'est-ce qu'est la coordination pour le changement de mentalité. Je disais parler à haute voix aussi de ce qu'est la vision du chef de l'État. Lorsque vous l'avez si bien dit dans votre introduction, nous entendons le chef à plusieurs reprises parler de sa vision, celle de remettre l'homme congolais au centre de son action. Nous voyons avec beaucoup d'attention combien l'homme congolais a grandement besoin de s'amender, si pas améliorer, afin que nous arrivions à nous rassurer d'un développement adéquat pour notre pays. Donc le changement de mentalité est venu à propos parce que même si on dotait la RDC de toute technologie occidentale, on aura toujours un sérieux problème pour nous développer parce que ce qu'il y a en face de nous comme problème majeur sur la mentalité.
Quelle autopsie faites-vous de la société congolaise? Pensez-vous qu'il y a des mentalités à changer?
Effectivement, il y a énormément de choses à changer dans la mentalité du Congolais. Lorsqu'on regarde le comportement même du Congolais, on a une idée. Parce que le comportement, c'est en fait, dans des termes simples, c'est une facette visible de ce qui est à l'intérieur de l'homme, dans son mental, dans son psychique et l'ensemble des valeurs qui caractérisent l'homme. Donc lorsqu'on regarde le comportement du Congolais dans plusieurs domaines de la vie sociale, politique, économique même du pays, on se dit c'est un grand chantier. Je vais donner quelques illustrations. Juste à voir la gestion de la circulation. Quand on voit combien, que ce soit les intellectuels et messieurs, madame, tout le monde, se comportent lorsqu'on est en face de la gestion de la circulation, on s'est dit on est tombé plus bas.
Oui.
Dans d'autres nations un peu structurées, on trouve que on n'a pas besoin forcément d'un roulage, d'un régulateur de circulation. Lorsqu'on arrive à un carrefour, on se dit premier arrivé, premier à partir. Et vous allez voir que c'est automatique. Mais ici, on a un sérieux problème. On arrive à un carrefour, il n'y a pas de feu de circulation, il n'y a pas un policier régulateur de circulation, mais c'est le chaos. Que ce soit l'intellectuel, que ce soit l'homme en cravate ou monsieur, madame, tout le monde, personne n'est capable de laisser l'autre passer en premier. Et on est dans un bouchon qui n'a, et là, le plus grand problème ici, c'est tous ces embouteillages-là résultent du comportement des usagers. Donc ça, c'est une autopsie, c'est un des éléments dans l'autopsie qu'on a fait. Et vous savez, lorsque dans la famille on apprend que un membre de famille a été nommé ministre, le jour même, vous allez voir dans la nature de la célébration, les mots utilisés, vous allez vous dire, est-ce qu'il est conscient de sa responsabilité de servir ou il est allé pour se servir? Et un ministre nous racontait avec beaucoup d'aisance, il dit, un de ses oncles est arrivé le visiter le lendemain de sa nomination pour lui dire, c'est quoi au tour, Nabisso? Ça, c'est notre tour. Donc, la notion du service n'est plus. Par contre, on se dit, c'est l'occasion, non seulement de s'enrichir, mais d'enrichir le reste de la famille. Ce qui fait que on est exposé à des problèmes de mégestion, de mauvaise gouvernance, qui s'accumulent génération après génération. Et là, on se dit, il y a un grand besoin de changer de mentalité. On se dit, les valeurs ont tellement été renversées que, en faisant l'autopsie, on dégage une conclusion. L'homme congolais doit être reformaté.
Alors, vous avez vécu pendant longtemps au Canada et j'espère que vous avez aussi l'expérience de cette société-là comparativement à la société congolaise. Mais dites-nous, qu'est-ce qui explique la dépravation des mœurs et la persistance des mauvaises mentalités en RDC?
Déjà, si on est franc envers soi-même, au-delà des années 1986, même un peu plus tôt, la politique globale de l'éducation du temps du régime du feu président Mobutu avait soustrait des écoles l'instruction, l'enseignement sur le civisme. On a remplacé cela par le mobutisme et toute forme de doctrine qui servait juste à endoctriner toute une génération, mais qui a voué toute une nation à des pertes des valeurs. Et la raison même de notre mission, c'est que en regardant par rapport à d'autres sociétés d'où nous venons, où on a évolué et d'autres avec qui la RDC est en corrélation, on se rend compte que la gestion de valeur répond à toute une politique nationale de la culture et d'implantation du civisme et du patriotisme. Étant donné que au niveau de l'instruction, de l'éducation et de l'encouragement à l'intégration de la vie active, il n'y a plus eu, d'une manière responsable, une politique nationale d'encouragement des valeurs républicaines, de travail, de gestion du vivre ensemble. Et on a assisté donc, depuis 84, 85 même, à cette dépravation progressive de mœurs dans le pays. Ce qui était mal hier est appelé aujourd'hui d'une convenance populaire, quelque chose de bien. Je vais vous donner un exemple, ça peut peut-être frustrer certaines personnes. Ouais. Les gens qui étaient de la génération de Papa Wemba et autres ont considéré que tu es populaire, tu es un grand homme, quand tu mets un accent assez remarquable sur l'habillement. Et il y a eu un homme qui, partant du Congo, Zahir à l'époque, était parti comme voleur. Donc il a fui la justice congolaise, il passe son temps en Occident, il se donne une certaine réputation parce qu'il s'habille avec des habits trop chers, on l'appelle sapeur.
Ouais.
Et il commence à habiller nos ambassadeurs culturels, les musiciens, le chant, dont il devient très important. Quelques années après, il retourne au pays. Il est accueilli avec fanfare, motard, mais il y a quelques années à l'avant, il partait du pays comme fugitif dans d'autres nations. À l'aéroport même, il serait déjà interpellé parce qu'il est fiché. Je vous donne un exemple comme ça pour voir jusqu'où l'homme congolais était tombé très bas.
Alors, monsieur le conseiller spécial, quelles sont les conséquences directes liées à ces comportements que nous sommes en train de déplorer ici ?
Ça met en danger l'équilibre même de la nation. En fait, il y a un conflit de générations puisque les valeurs sont renversées. Il n'y a plus de correspondance entre les générations précédentes et celles qui arrivent. Celles qui sont nées dans les 30 dernières années, cette génération-là n'a comme référence que ce à quoi elle a été exposée. Elle connaît même pas qu'il y a eu un Congo prospère à un moment donné. Hein, cette génération ne sait pas qu'il y a eu un temps où un franc congolais, ça valait $2 américains. Donc, les gens qui sont nés dans la génération de l'article 15, débrouillez-vous, ils n'ont pas connu la récompense et la rémunération liée au travail. Donc, la valeur travail n'existe plus. Quelqu'un peut s'enrichir sans travailler. Il peut devenir un grand homme sans suivre les règles purement classique de l'épanouissement dans la société. Donc, tous les tissus économiques du pays souffrent aussi de ces anti-valeurs-là qui sont devenues un mode de vie. La corruption qui peut mettre en danger même la sécurité nationale. Je prends un exemple, un agent de DGM qui laisse passer quelqu'un sans identité réelle parce qu'on lui a donné un petit sac où il y a un présent assez remarquable. Ben lui, il va satisfaire ses besoins immédiatement, mais il vient de mettre en danger la sécurité de toute nation parce que la personne qui vient de traverser nos frontières, vous savez même pas si c'est, elle fait partie d'une société terroriste. On ne peut pas préconiser avoir des budgets équitables, équilibrés. À cause de toutes ces anti-valeurs de fuite de capitaux et le coulage de recettes, on a du mal à avoir une planification respectueuse de la croissance économique du pays. On est totalement dépendant d'un seul secteur qui est le secteur minier, ou encore on a énormément de sérieux problèmes d'éthique. On va avoir des enfants qui travaillent dans des mines. Tout ça parce que les valeurs ont été renversées dans le pays. Donc nous considérons que le changement de mentalité permettra à notre nation de se remettre debout dans toutes les dimensions de gouvernance même.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour les changements des mentalités, Jacques Kambala Chilombo. Avec lui, nous parlons de la mission de cette coordination et de la thérapie des mauvaises mentalités à changer dans la société congolaise. Monsieur le conseiller, comme vous le savez, il y a eu dans le passé récent un ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté. On l'a d'ailleurs repris dans ce nouveau gouvernement Ilunga qui va ensemble avec le ministère de la jeunesse. Mais depuis l'existence de ce concept de nouvelle citoyenneté, nous n'avons pas senti de changement dans l'action gouvernementale du point de vue du comportement ou des mentalités de l'homme congolais. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire pour convertir réellement l'homme congolais ?
C'est sûr que lorsqu'on va copier quelque chose à l'étranger et qu'on ne l'adapte pas aux réalités du terrain, on risque de ne pas avoir le même résultat escompté. À notre petite connaissance, il semblerait que le concept de la citoyenneté, de cette nouvelle citoyenneté, a été emprunté de la Corée. Et lorsqu'on l'amène ici, puisque ceux-là qui ont voulu l'implanter n'ont pas eu la vision même qu'il fallait, ça c'est notre analyse personnelle, la vision qu'il fallait pour cette nouvelle citoyenneté, alors on l'a transformée pour une action d'une consommation purement politique. Il fallait contenter nos acteurs et nos partenaires politiques étrangers, économiques et financiers, à dire que non, il y a quand même un travail qui se fait. Mais cela n'a pas obtenu le soutien commença par les sommets même de la nation. C'est le fait que ça se retrouve comme une petite cellule, c'est parti de plusieurs, c'est passé par plusieurs ministères, se retrouverait jusqu'à une petite cellule du ministère de la jeunesse. Ce que nous avons comme opportunité dans cette nouvelle législation, c'est que la vision même du changement de mentalité et de la nouvelle citoyenneté a comme impulsion venant du chef de l'État lui-même. Donc, c'est un natif du pays, c'est quelqu'un qui connaît la réalité du pays et qui a une vision claire de ce qui doit être transformé. D'où je reviens à ce que nous avons comme mission. On nous appelle coordination, donc nous sommes là pour, d'une part, fédérer toutes les structures, les associations gouvernementales et non gouvernementales, et tout ce qu'il y a comme établissement public ayant comme matière le changement de mentalité, le comportement, la lutte contre les antivaleurs, tout ce qui touche au comportement et à la bonne gouvernance, nous sommes donc là pour le fédérer. Donc nous allons encourager toutes ces structures qui existent à bien fonctionner. On aura un regard assez attentif à rechercher les causes des dysfonctionnements. Pourquoi ça n'a jamais produit les résultats? Est-ce une question de volonté politique? Est-ce une question d'équipement? Quel genre d'accompagnement il faut accorder à ces structures? Ça, c'est d'une part. D'autre part, celles qui sont superflues, parce que c'est un dédoublement d'une gestion inspirée par une gestion purement politique, sans avoir besoin, une vision réelle d'avoir un impact dans la vie sociale de toute la population, si ça, leurs raisons d'être ne sont pas là, elles devront disparaître. Donc, aussi, nous pensons que dans le travail qu'on a à faire au niveau de la population, nous avons une mission transversale. Ça va dans toutes les institutions. Une manière de régler ce problème de comportement au niveau des établissements publics et semi-publics, c'est d'instaurer dans chacun de ces établissements ce qu'on appelle un comité d'éthique. Ouais. Ce comité d'éthique vise à encourager les valeurs positives. Donc, il y aura des sanctions positives à tous les niveaux. Que ça soit au niveau du ministère et du cabinet et même de la fonction publique, à tous les niveaux.
Alors, nous allons y revenir justement. Vous envisagez mettre en place des maisons citoyennes dans chaque commune, en plus des comités d'éthique.
Oui.
Alors, dites-nous, quelles sont les missions que vous comptez assigner à ces maisons citoyennes, mais aussi à ces comités d'éthique qui devraient se retrouver dans toutes les sociétés ou les institutions du pays?
Commençons par le comité d'éthique. Donc, je disais, il fallait encourager les animateurs, les dirigeants, les gouvernants à avoir des valeurs positives dans la gouvernance. Et cela qui aurait répondu à un bon nombre de critères de code d'éthique au niveau de l'emploi et seront encouragés positivement. Prenons un exemple. On va afficher dans chaque ministère pour un trimestre, voilà les meilleurs gestionnaires. Les mandataires qui ont bien fait leur travail, qui n'ont pas volé, qui ont fait ça positivement, ils sont affichés et tout le monde le voit, tout le monde le connaît. Mais comparativement à cela, on va faire aussi la sanction négative. On peut afficher dans chaque ministère les mauvais employés, les mauvais fonctionnaires sur le plan éthique. Tout le monde le sait aussi. Vous voyez l'aspect, le coût que ça apporte sur le plan psychologique, que tu t'élèves un matin, que tu saches que toute la République saura que M. Jacques Kambala était un mauvais gestionnaire durant le premier trimestre de l'année parce que il a détourné autant de fonds. Je crois que ça va donner un effet d'électrochoc pour changer la mentalité. Au niveau de la maison des citoyens, il y a aussi une grande mission qui serait à attribuer à cette maison des citoyens, c'est d'apprendre le patriotisme à chaque concitoyen. On doit apprendre à connaître la nation. Connaître une nation, connaître l'État, c'est aussi connaître les lois de l'État. Quelles sont les lois qui existent? Donc les maisons de citoyens ont aussi la mission de faire la promotion de la loi pour aller rechercher l'équilibre entre le droit et le devoir. Beaucoup de gens crient que leurs droits ont été bafoués, mais ils ne connaissent pas assez bien leurs devoirs. Les maisons de citoyens vont nous aider à remettre cette valeur vivre ensemble sur l'échiquier national. On va combattre le tribalisme d'une manière assez efficace en enseignant des valeurs communautaires dans la maison des citoyens.
À vous entendre parler, le chantier est vraiment vaste. Et par où comptez-vous commencer pour que les actions menées apportent réellement des résultats satisfaisants?
On commence assez rapidement, déjà au niveau de l'éducation. L'éducation nationale, il y a plusieurs contacts qui sont faits déjà avec le ministre de l'EPSP et aussi de l'ESU. Il y a un chantier en vue entre les animateurs de toutes ces structures et les universités, les gestionnaires de grandes institutions d'enseignement ici, pour qu'on rétablisse ensemble le programme de l'éducation 2020. Il faut que déjà au niveau de nos enfants à l'école, qu'ils apprennent les bonnes valeurs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on va faire un grand travail de sensibilisation à tous les niveaux. On commence déjà la semaine prochaine, si tout va bien, au niveau même de ceux-là qui visitent notre pays pour la première fois. Dès qu'ils atterrissent à l'aéroport, ils devront voir clairement ce qui n'est pas accepté dans ce pays.
Alors dites-nous, monsieur le conseiller, dans combien de temps espérez-vous voir naître un homme nouveau dans le mental des Congolais?
C'est sûr que nous prions que ça ne soit pas, ce travail qu'on fait ne soit pas limité qu'à une seule législation, à un temps, à un mandat donné, parce que nous pensons que la fossé est assez profonde, hein. Ça nous prendra du temps. Si on ne se trompe pas, ça prendra du temps. Mais il faut qu'on dépersonnalise ce mandat. Ça ne devrait pas être lié qu'à la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi ou à la durée de son mandat. Ça devrait être un besoin national qu'on doit pérenniser. C'est ce que nous espérons commencer à avoir des résultats déjà la première ou la deuxième année de notre action, mais qu'on les voit graduels jusqu'à couvrir l'espace-temps. Il y a toute une génération à refaire pour que celle-là devienne pilote pour les autres générations qui viendront après. Alors, si le politique s'approprie la vision et que monsieur, madame, tout le monde en fait son problème, ça, on va arracher ces débats sur le plan politique, on va l'amener dans, comme un besoin national, on se dit... Ça peut aller dans 4, 5, 10 ans, on va avoir des résultats.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit Jacques Kambala Tshilombo, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint pour les changements des mentalités. Alors, monsieur le conseiller, vous comptez initier plusieurs actions devant concourir au changement des mentalités. Dites-nous, quelle est votre cible principale?
C'est le Congolais, commençant par l'enfant, l'élève, l'étudiant, le professionnel. Alors vous voyez, l'OCEP existe pour des valeurs éthiques au niveau socio-professionnel, mais nous voulons étendre cette action à toutes les couches de la société. Nous commençons par la famille. À l'époque, le chef du quartier avait une grande valeur. Si tu es chef du quartier, c'est par toi qu'on entrait, c'était le point de contact pour entrer avec l'administration. Si la famille sait déjà où est-ce que je vais aller retirer mon certificat de naissance de mon enfant, sans pour autant payer au-delà de frais reconnus nationalement, c'est déjà une grande victoire. Si on sait que la corruption gangrène la vie sociale, on va combattre la corruption déjà au niveau de l'enseignement primaire. L'enseignement secondaire, le respect de l'autre. Ça commence par l'enseignement primaire. On doit sortir le Congo de l'expression en lingala qui dit « chance et logopam ». Il faut que les gens reprennent la notion de « c'est que tu réussis parce que tu as fait quelque chose ouais. ». On doit combattre les points sexuellement transmissibles à l'université. Il faut que les gens apprennent que si tu réussis, tu deviens un cadre parce que tu as suivi un circuit normal et tu as étudié, tu as fourni les efforts. Donc on va aller sur plusieurs champs comme ça. En même temps, mais alors, on n'oublie pas les gestionnaires de la nation. Oui. Toutes les régies des recettes de la RDC, dans notre mandat de lutter contre les antivaleurs, sont déjà à la mire.
Les Congolais, généralement, sont réputés d'avoir des très bonnes idées, mais du point de vue de la faisabilité, généralement, on se limite à des slogans. Dites-nous, monsieur le conseiller, quels sont les projets concrets que vous comptez mettre en place à court, à moyen et à long terme?
Le projet le plus, ce qui est suffisamment avancé, c'est au niveau de la gestion du désordre routier.
Ouais.
Si les choses vont dans la direction qu'on souhaite, on aimerait arriver à une solution digitale, numérique. Par exemple, être capable de l'émission du permis de conduire à la destruction de l'auto, l'amener à la fourrière, avoir un circuit totalement numérisé. Par la plaque, savoir identifier le propriétaire de l'auto et aussi l'usager habituel. De sorte que quand il y a une contravention à émettre parce qu'il y a une infraction sur la route, ça doit être bancarisé. Tout propriétaire de l'auto doit avoir un compte bancaire. Lorsqu'on vous sanctionne sur la route, le montant sera directement retiré de votre compte. Imagine que ton chauffeur, il fait le sens contraire 2-3 fois en une journée, que dans la même journée, il a été attrapé 3 fois et qu'on vous a enlevé 300 dollars dans votre compte, vous n'allez pas le garder. Et ça va pousser à un changement de mentalité, d'une part. De l'autre, ça permettra à ce que toutes nos régies qui sont concernées par la gestion de la route s'autofinancent pour que nous ayons des routes dans de bons états. Ça, c'est un projet qui est déjà en route. Ouais. Et je crois que si tout le monde s'y met, on peut arriver à quelque chose de bien. Commencer déjà par le mois de janvier, avoir un début de changement de comportement. Deuxièmement, une gestion intégrée de la gestion des immondices, de l'environnement. On veut mettre une campagne assez assidue sur l'assainissement de notre environnement, ouais, et le changement de mentalité dans la gestion des immondices. Où est-ce qu'on va jeter tout ce qu'on ramasse? Nous nous sommes assis avec quelques animateurs de la ville province de Kinshasa, parce que ça sera la ville pilote, pour voir le système des égouts de la ville, jusqu'où ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a à faire. Il suffit pas seulement de dire aux gens, ne jetez pas ci, ne jetez pas là, mais faut qu'on sache quelle est la politique de la commune, de la ville, dans la gestion des déchets. Comment on les gère? Comment impliquer les citoyens à être lui-même producteur de son énergie en assainissant son environnement? Ça, c'est, il y a beaucoup de formations à donner, beaucoup d'interpellations aussi. Ce sont des projets qui sont déjà en marche. Et nous sommes en travail, comme je disais tantôt, avec l'éducation, les PSP et les SU, pour imprimer des nouveaux manuels où on doit réviser l'histoire de la RDC. Vous savez, un peuple se réunit lorsqu'il réunit même son histoire. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne se justifie plus que nos enfants étudient l'histoire des Napoléons pendant qu'ils sont incapables de tracer l'histoire de leur propre quartier où ils ont grandi, ils ont fait 20 ans. Donc, il faut revoir des valeurs qui se transmettent sur le plan historique. Ça peut aider la société à bien gérer le présent. Si vous ne maîtrisez pas votre histoire, vous ne pouvez pas gérer le présent. Il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Les manuels qui sont à la table de nos parents. On a un sérieux problème d'accompagnement de parents dans les devoirs des enfants. Il y a un grand écart entre ce que nos parents ont étudié et ce que nos enfants étudient aujourd'hui. Et on a du mal à les aider. Comment ramener la famille à transmettre les valeurs positives en travaillant avec l'enfant dans ses devoirs? Donc il faut revoir les manuels. C'est un grand chantier. Enfin, on devrait travailler avec les leaders d'opinion. Aujourd'hui, ce qui tue le Congolais, c'est qu'on écoute tout le monde.
Ouais.
S'il y a lieu d'assainir au niveau des leaders d'opinion, qu'est-ce que tu as à donner? Quel est le contenu du message? Comment on peut faire pour que ces leaders d'opinion deviennent de masters, de maîtres, des rabbis, de gens qui peuvent devenir une école? Donc eux-mêmes, ils reflètent des valeurs qu'ils enseignent, des valeurs qu'ils déclarent. On travaille avec l'Église. L'Église est en train de gérer le 2/3 de la population. Il faut que le message de l'Église soit amendé. Comment l'Église peut devenir un vecteur de préparation au développement? On a amené un projet qui est en train d'être... On est en phase de mobilisation de plusieurs mouvements religieux pour que on arrive à avoir une église, une industrie. L'église est capable de devenir productrice de ses premiers besoins. Les membres de l'église peuvent faire du savon au lieu d'importer les savons. On peut faire le savon nous-mêmes et on le consomme nous-mêmes. Comment recréer des micro-coopératives dans la communauté pour que les gens arrivent à s'auto-suffire dans le besoin le plus élémentaire? Ça, c'est toute une mentalité qu'il faut amener dans ce pays et nous croyons que si la volonté politique suit et que les gens oublient un peu leur regroupement, leurs attachements à des familles politiques et ils regardent le besoin comme un besoin national, on peut assez rapidement arriver à de bons résultats.
Mais en même temps, l'idée de bien surveiller les leaders d'opinion notamment, ne craignez-vous pas que ça vous fasse tomber dans l'antidémocratie? Parce que la conception qu'on a au Congo de la démocratie, c'est que chacun a la liberté d'exprimer ce qu'il pense.
Ouais, mais le plus grand que vous et nous qui ont commencé la démocratie sont d'accord aussi avec nous que la liberté n'est pas le libertinage. Alors, la démocratie n'est pas synonyme d'anarchie. Quand quelqu'un saura que injure publique est passible de quelques sanctions, il apprendra à respecter l'auditeur d'abord. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer à une chaîne de radio parce que nous veillons à l'éducation de nos enfants. La censure, considérée ici comme mesure de protection, ce n'est pas antidémocratique. C'est par contre une façon de préserver les valeurs familiales, les valeurs éducatives que nous connaissons.
Monsieur Jacques Kambala Chilombo, je vous remercie.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Kelly Nkouté sous la supervision de Pelekipela Mondo. Merci de rester fidèle à la fréquence de la paix. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.